VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Ouagadougou, midi à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, les forces de sécurité quadrillent les quartiers sud de la capitale, bastion de l'opposition, après l'interdiction de tout rassemblement sur le boulevard des armées, où l'opposition comptait manifester aujourd'hui contre le projet de référendum constitutionnel du 25 octobre. Des fumées noires ont été signalées tôt ce matin à plusieurs points de la capitale où des jeunes gens brûlaient des pneus à titre de protestation. Mais les contestataires ont été dispersés par la police qui a tiré en l'air et fait usage de grenades lacrymogènes. Le calme est maintenant revenu selon l'AFP. Par ailleurs, pas d'internet mobile ni de service SMS dans la capitale. Les magasins, écoles et administrations sont également fermés, bien que la présidence ait publié un message indiquant que la journée n'était pas fériée et que tout le monde devait travailler normalement. Pourquoi ce refus catégorique du scrutin par les opposants, alors que le gouvernement dit vouloir simplement laisser le peuple s'exprimer librement en la matière? Les explications de Trésor Nzila, directeur de l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme, joint à Brazzaville par Timothée Donangmaï.
C'est un projet anticonstitutionnel. Au regard de la constitution du 20 janvier 2002, il n'est pas prévu un mécanisme pour changer la constitution. Les initiateurs de cette constitution étaient bien conscients qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il y a le mécanisme de la révision qui était prévu. On peut faire évoluer les institutions au travers de la révision. Mais amener le peuple congolais à vouloir changer la constitution dans le seul but de permettre à M. Sassou de rester indéfiniment au pouvoir, nous disons non.
Trésor Nzila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme. Selon des témoins à Pointe-Noire, capitale économique du pays, la situation serait identique à celle de la capitale. En RDC voisine, controverse au Parlement au sujet de l'élection de plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale en remplacement de ceux exclus de la majorité. La querelle porte aussi sur la question du porte-parole officiel de l'opposition, tel que le prévoient les lois du pays. Plus de détails avec le député de l'opposition, Franck Diongo, au micro d'Eddy Sango.
Le bureau de l'Assemblée nationale contient 7 membres. Et la loi sur l'opposition politique exige à ce que, et même le règlement intérieur, exige à ce que la proportion des députés au niveau de l'Assemblée, la configuration politique se retrouve au bureau. Le G7 qui a quitté la majorité a amené à l'opposition 80 députés. Plus le nombre de députés que nous avions avant le G7, aujourd'hui, les rapports de force sont tels que 225 députés de l'opposition et 275 députés de la majorité, ceux qui font 500 députés. Donc, les rapports de force aujourd'hui exigent à ce que l'opposition ait 3 députés au bureau et la majorité 4. Première anomalie, la majorité n'a pas obtempéré à cette exigence légale.
Quand l'opposition dit que les députés n'ont pas voté en toute liberté et surtout les députés de la majorité au pouvoir, qu'est-ce que cela veut dire?
Non, c'est clair. Il y a eu les enveloppes et la corruption d'argent et avec les mots d'ordre des intimidations. C'est clair. Il n'y a personne au bureau de l'Assemblée qui peut défendre les positions de l'opposition au bureau. Non, il n'y a pas. Le régime de M. Kabila au pouvoir ne respecte pas les lois de la République. Vous pouvez comprendre, pendant des mandatures, M. Kabila ne permet pas à ce que l'opposition ait un porte-parole de l'opposition pendant des mandatures pour empêcher que l'opposition ait un financement. Parce qu'au niveau de la loi sur l'opposition, il faut désigner un porte-parole parce qu'il y a une dotation de 500 millions de dollars par an.
N'est-ce pas là la démocratie? Parce que le président Joseph Kabila que vous citez ne vous interdit pas de désigner ou de choisir vos représentants ou un porte-parole de l'opposition, ou encore au niveau du bureau, ça se fait par l'élection.
Non, parce que pour que les porte-parole soient désignés, il faut que les deux présidents des deux chambres convoquent les députés et les sénateurs de l'opposition pour voter un porte-parole. À ce jour, l'opposition a rédigé le règlement, a fait tout, mais les deux présidents n'ont jamais convoqué parce que le président Kabila ne le fait pas.
Franck Diongo, député de l'opposition et président du mouvement lumumbiste progressiste. Le sous-secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires et coordonnateur de l'aide d'urgence, Stephen O'Brien, entame ce mardi une tournée qui le conduira en République centrafricaine et au Cameroun pour s'imprégner de la situation des réfugiés déplacés dans ces deux pays. Le point avec Georges Léonard Sagnot.
En République centrafricaine, Stéphane Aubryan aura des entretiens avec la présidente intérimaire Catherine Samba-Panza et d'autres responsables centrafricains. Il discutera aussi avec les représentants des organisations caritatives des défis qui persistent et des moyens d'améliorer la réponse humanitaire. Le 23 octobre, il sera au Cameroun pour rencontrer les responsables gouvernementaux et humanitaires concernant un soutien à l'aide en faveur des réfugiés ayant fui la violence en RCA et au Nigeria. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les affrontements en République centrafricaine et plus de 250 000 ont cherché refuge dans les pays voisins.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, le rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de retour à la paix est au centre d'une rencontre dans la capitale qui a réuni des femmes, députées, militaires et leaders d'ONG. Réunion organisée dans le cadre du 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette rencontre entre les femmes a porté sur les engagements du gouvernement du Mali, l'accord de paix intermalien, son niveau de mise en œuvre et les difficultés de la promotion politique et administrative de la femme malienne. Il a été aussi question des causes des conflits cycliques violents au Mali. Fatoumata Maïga, présidente de l'ONG pour les initiatives de paix au Mali.
Les femmes, elles veulent que leur travail soit reconnu et qu'au niveau du gouvernement, qu'on comprenne qu'elles sont des citoyennes à part entière. Parce que quand un conflit vient, la violence ne choisit pas. Et très souvent, elles sont actrices de paix en même temps actrices de conflit.
Plus de 50% de la population malienne est constituée de femmes. Et pourtant, elles n'ont pas été prises en compte dans le cadre du processus de paix et de réconciliation au Mali. Diallo Aissata Touré, députée à l'Assemblée nationale du Mali.
Je sais que les femmes ont un très grand rôle à jouer dans l'instauration de la paix. Si on arrive à impliquer les femmes jusqu'à un certain niveau, d'abord nous associer aux décisions, nous consulter, prendre nos avis, même si ce n'est pas forcément les appliquer tout le temps, mais au moins se savoir quelles sont nos opinions et nos pensées pour faire avancer les choses.
Cette causerie entre les femmes s'est basée sur la résolution 1325 des Nations Unies, dont la seconde phase sera lancée bientôt au Mali.
Je suis le commandant Konaté Bintou Maïga. On vient tout juste d'élaborer le second plan d'action nationale de la résolution 1325. Et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est une résolution pour la paix, la sécurité des femmes. Et nous avons l'intention, dans ces quelques jours, de procéder au lancement du plan.
Les participantes à ces échanges n'ont pas manqué de mettre l'accent sur le rôle que les femmes ont joué au Mali pendant la crise de 2012.
Ici, à Bamako, quand il y a eu le coup d'État, c'est les femmes qui spontanément sont sorties pour dire non au coup d'État. Elles se sont organisées en grande masse pour aller à Kati et dire ce qu'elles pensent à ceux qui ont fait le putsch. Et quand vous voyez les régions du Nord, c'est les femmes qui sont sorties pour braver l'occupant. Et quand les forces de défense et sécurité sont parties, quand il n'y avait personne, ils sont restés. Alors, et c'est pour ça que nous ne comprenons pas que les hommes se sont retrouvés positionnés dans les premiers mécanismes de résolution du conflit et sans femmes.
Cette rencontre des femmes s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi il y avait aussi une exposition photo sur 1000 femmes qui sont des initiatrices de paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Conflit au Yémen maintenant. Le gouvernement du président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi se dit prêt à engager des pourparlers avec les rebelles sous l'égide de l'ONU dans l'espoir de mettre fin à 7 mois de guerre généralisée dans le pays. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les Nations Unies n'ont pas encore confirmé l'acceptation formelle de pourparlers entre les partis yéménites, ni fixé la date ou le lieu de ces discussions. L'annonce faite lundi par le gouvernement yéménite a tout de même été saluée par l'Arabie Saoudite, qui dirige une coalition régionale appuyant le gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi contre les rebelles. « Oui, nous avons donné notre accord pour participer à des pourparlers proposés par l'ONU », a déclaré lundi à l'AFP le porte-parole de ce gouvernement, Rajed Badi, ajoutant que les discussions pourraient se tenir à Genève. Le conflit yéménite a fait plus de 5 000 morts et 25 000 blessés depuis fin mars. Deux tentatives de réunir les partis yéménites autour d'une table de négociation ont échoué. Le gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi exigeait de ses adversaires d'accepter la résolution onusienne 2216 qui prévoit le retrait des territoires conquis depuis l'an dernier et la restitution de l'état des armes saisies.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.